C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Dandy. Auteur Pedro Lemebel, écrivain chilien, 1952-2015. Œuvre Je tremble au matador, Tengo miedo torero, roman 2001, traduction française 2004. Personnage La folle du front, adaptation un film de Rodrigo Sepúlveda en 2020. En ce moment, certains hommes hétérosexuels vieillissants veulent nous faire croire qu'ils sont minoritaires et persécutés. Ils utilisent pour cela l'expression « mâle blanc de plus de 50 ans » comme si c'était l'étoile jaune. Expression vague, d'ailleurs inventée par on ne sait qui, et que personne n'utilise à part eux. C'est si bon de se faire passer pour persécuté. Dans cette dénomination, ils oublient l'orientation sexuelle. L'hétérosexualité compte beaucoup, si tant est que l'on puisse les rassembler tous dans cette catégorie, ce qui n'est bien entendu pas le cas, les mâles blancs hétérosexuels de plus de 50 ans n'ont pas subi le millionième de ce que les gays ont subi, ils n'ont même rien subi du tout. Ils remplissent les médias, ils vendent des centaines de milliers de livres, quelques égratignures les font hurler, quelle chochotte, ce sont bien des machos. Bien plus courageuses sont les folles. Elles le sont parce que, plus que tous les autres gays, elles doivent en permanence affronter la condescendance, le dédain, les injures, les coups. Quand on a résisté à tout ça, les bobos des machos font sourire. Les Sud-Américains, qui ont beaucoup souffert des dictatures et en souffrent encore, en sont les meilleurs romanciers. D'avoir été opprimé n'est pas une condition suffisante. On n'a pas beaucoup lu de satire russe ou chinoise de la dictature. Les satiristes américains sont bien connus. Augusto Roa Bastos avec Moi le Suprême, Gabriel Garcia Marquez avec L'Automne du Patriarche, auquel j'ai d'ailleurs consacré un personnage en personne, bien d'autres. Si ces romans sont lus, répandus, étudiés, c'est parce qu'ils sont très bons, mais aussi peut-être parce que leurs auteurs sont hétérosexuels. Le mépris dans lequel on tient les folles fait considérer qu'une folle romancière, auteur d'un roman folle contre une dictature, ne peut pas être pris au sérieux. Or, je tiens « Je tremble au matador » de Pedro Lemebel et son personnage de la folle du front, dont j'ai récemment parlé dans un quadritème, pour un grand roman de la dictature à l'égal de ceux que je viens de citer. Qui est la folle du front? Pour en parler, je reçois Anatole Tomczak, traducteur notamment du portrait de Dorian Gray non censuré d'Oscar Wilde. Anatole Tomczak, avant de parler du personnage, je voudrais que nous parlions de l'auteur du roman, car Pedro Lemebel est très peu connu en France, où un seul de ses livres a été traduit, et notons qu'il vient d'être réédité dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard. Je crois qu'il est né dans un endroit pauvre du Chili.
Absolument, bien que méconnu en France et même en Europe, en dehors de l'Espagne d'ailleurs, Pedro Lemebel était une figure emblématique, il l'est toujours, une figure emblématique au Chili. On peut le décrire comme un écrivain et un militant, performeur. Alors il est principalement connu pour deux choses. D'abord pour ses écrits qui sont essentiellement des articles et des chroniques qu'il a consacrés à des thèmes de société, surtout aux minorités, homosexuels, pauvres, peuples autochtones, prostituées. Et il est connu également pour le duo artistico-militant et politique qu'il a formé avec un autre poète chilien, Francisco Casas, et ce duo qui a existé dans les années 90, à la fin des années 80, même encore sous la dictature de Pinochet, s'appelait les Juments de l'Apocalypse, et ensemble, ils faisaient des interventions, ils venaient perturber des salons littéraires, des expositions, avec des messages politiques plus ou moins explicites pour la libération homosexuelle notamment.
Alors il faut dire qu'il a grandi, je l'évoquais, dans un des quartiers pauvres de Santiago. C'était un fils de boulanger. Il a d'abord étudié dans un lycée professionnel où il a étudié la forge et la fabrication de meubles. Et puis il est entré à l'université où il s'est spécialisé dans les arts plastiques. Il est devenu professeur, avant tout ce que vous disiez, dans deux lycées locaux. Et à l'image de Pasolini, il en a été renvoyé à cause de ses mœurs atroces. Il a donc écrit et agi, ce Lemebel, sous Pinochet. Quelle était la situation de l'homosexualité au Chili Chili sous Pinochet.
Alors, peut-être un mot sur la situation des homosexuels au Chili, même avant Pinochet, parce que avant Pinochet, il y avait évidemment la gauche d'Allende, et on n'a pas besoin d'aller au Chili pour savoir que la gauche la plus radicale et les communistes se sont crispés sur des doctrines absolument homophobes. C'était impossible d'être ouvertement homosexuel sous Khrushchev et même jusqu'à Brejnev en Union soviétique.
Même Aragon s'est caché.
Exactement, idem chez Fidel Castro et idem aussi avec le PCF. On se souvient de Jacques Duclos traitant les militants du FAR, donc le Front homosexuel d'action révolutionnaire, de sales pédés qui doivent aller se faire soigner. Alors, quand Pinochet arrive au pouvoir, évidemment, le régime de Pinochet est un régime de droite conservatrice, fondé sur une conception de la morale chrétienne absolument traditionnaliste, et donc les rôles d'hommes et de femmes sont tout à fait exaltés, notamment dans la personne du couple présidentiel auquel on voue une sorte de culte de la personnalité.
C'est un régime militaire, hein ?
C'est un régime militaire. Les persécutions envers les homosexuels ont été particulièrement vives. Il y a eu des arrestations, des tortures et même des meurtres. Par exemple, en 1974, il y a le Front argentin de libération homosexuelle qui dénonce la mort d'un travesti à Santiago tué par la junte militaire de Pinochet.
Et d'ailleurs, pour abonder dans le sens de ce que vous disiez à propos de ce qui précédait Pinochet, en 86, l'Aimé Bell a assisté à une réunion de gauche où il est arrivé de manière un peu provocante en talons hauts et il a lu là un manifeste, Hablo por mi diferencia, je parle pour ma différence, où on trouve les phrases suivantes, mais ne me parlez pas du prolétariat, parce qu'être pauvre et pédé c'est encore pire, je ne vais pas changer pour le marxisme qui m'a rejeté tant de fois. Je n'ai pas besoin de changer, je suis plus subversif que vous. Donc passons à ce roman, qui est son unique roman. Vous avez dit qu'il faisait des interventions, qu'il écrivait des articles et des chroniques. Et il a écrit ce roman, La Folle du Front, qui a paru donc en 2001, et qui se passe donc sous Pinochet. D'abord, le titre du livre vient
d'une chanson de la chanteuse populaire chilienne Sara Mantel, qui était populaire dans les années 50-60 particulièrement, et qui est une des chanteuses que la Folle du Front aime à écouter chez elle, car elle a un goût absolument prononcé pour le kitsch, et le roman est ponctué de ces paroles de chansons qu'elle entonne de manière régulière.
Alors, à quoi ressemble-t-elle physiquement, cette Folle du Front ?
La Folle du Front, c'est un... Alors, elle est qualifiée souvent, bien que son genre soit indéfini et qu'on s'adresse, qu'on se réfère à elle de manière alternative avec les pronoms masculins, féminins, elle est quand même... on utilise pour la qualifier, d'ailleurs, elle-même, pour se qualifier, utilise les mots qui, en général, désignent les vieux homosexuels. Donc, elle parle d'elle comme d'un pédé, d'une tantouse, d'une tafiole. On sait qu'elle a une quarantaine d'années. On sait que la pauvre n'a plus beaucoup de cheveux, bien que ceux-ci soient bruns. Et on sait aussi qu'elle est édentée, puisqu'elle porte un dentier qu'elle va commodément retirer lors d'une scène absolument fameuse de fellation.
Et qu'est-ce que c'est que ce front dans son surnom ?
C'est le Front patriotique Manuel Rodriguez qui a organisé et perpétré l'attentat de septembre 1986 contre Pinochet, qui visait à tuer Pinochet et qui a, de ce point de vue, échoué.
Donc, cette Folle du Front non autrement nommée, qu'est-ce qui lui arrive ? Quel est l'argument du roman ?
Cette Folle du Front, on la rencontre alors qu'elle vit dans une maison d'un quartier pauvre de Santiago et finalement, elle mène une existence tout à fait tranquille et dépolitisée, puisque elle gagne sa vie en tissant et en brodant des nappes, des mouchoirs et des draps pour les dames de la bourgeoisie chilienne. Et elle se paye épisodiquement les services de garçons de la rue pour satisfaire ses envies sexuelles. Elle fait la rencontre d'un garçon nommé Carlos, qui est un étudiant d'université plutôt bon teint, qui va utiliser la folle et particulièrement sa maison pour y entreposer des caisses dont le contenu reste tout au long du roman mystérieux, mais on comprend très vite que le roman s'achemine vers un attentat, donc l'attentat dont j'ai parlé. Et cette folle va donc accueillir ce Carlos chez elle et très vite, avec son cœur d'artichaut, tomber amoureuse de lui. Et entre eux va naître une histoire singulière entre deux êtres extrêmement différents, le temps d'un événement politique qui les dépasse tous les deux.
Il y a une phrase dans le roman à propos de la folle du front qui montre son lent accès à la conscience politique. Et la phrase est la suivante, mais le sérieux n'était pas dans son tempérament de pédale joyeuse. Et ça veut dire que cette folle voudrait que la vie soit une féerie. Et en cela, il me rappelle beaucoup Blanche Dubois, le personnage d'un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. Elle voudrait que tout soit gentil et rieur. Et elle a réussi à se créer sa toute petite république de gens fréquentables pour elle. Et tout d'un coup, ce jeune étudiant vient fracasser ce confort féerique. Et peu à peu, elle va accéder à cette conscience.
Il éveille sa conscience politique, elle prend peu à peu conscience des conséquences de la répression du régime de Pinochet sur la société qui l'entoure. Elle va écouter de plus en plus Radio Cooperativa, donc qui était la seule radio diffusant des nouvelles qui n'étaient pas favorables au régime. Mais inversement, on peut dire de Carlos que lui va aussi progressivement se faire happer par le romantisme fantaisiste de La Folle du Front, et lui va aussi rentrer dans son jeu romantique.
Alors, il faut dire que le roman est entrecroisé de scènes excellentes, à mon sens, qui sont des monologues intérieurs de Pinochet lui-même, qui n'est pas nommé dans le roman, mais on le reconnaît évidemment, et de scènes comico-politiques, dirais-je, de Augusto Pinochet et sa femme, qui était une atroce personne, encore plus réactionnaire que lui, si c'est possible.
Oui, donc le couple donc Pinochet, qui est désigné uniquement sous les noms « le dictateur » et « la première dame », forme un couple qui est une espèce de pendant au couple dont on vient de parler, donc celui de La Folle et de Carlos. Et tous les deux, vous disiez Pinochet monologuait, mais alors lui, il somnole surtout. C'est-à-dire que lui, ses monologues sont surtout des rêveries éveillées, des rêves, des cauchemars. Il semble touché de narcolepsie. Sa femme, en revanche, dont on sait historiquement qu'elle a eu un rôle tout à fait important dans le coup d'État de 73 et qui disait à qui veut l'entendre, moi si j'étais à la place de mon mari, je serais encore pire que mon mari. Et c'est ce personnage monstrueux que les Mébelles représentent sous les traits d'un être grotesque qui passe son temps à jacasser et à déverser sur son mari qu'elle tyrannise, en déversant sur lui une logorée vénale, raciste, avec tous les poncifs de la bourgeoisie réactionnaire.
Alors la chose assez piquante là-dedans, c'est que elle a un coiffeur qui est un peu son conseiller et qui lui-même est une folle, et elle donne des conseils à son mari Pinochet d'après les conseils de la phobe, alors que lui, dans ses récriminations, évidemment, il y a une homophobie constante et enragée.
Lui, le dictateur est absolument obsédé par l'homosexualité. Vous évoquez donc ce conseiller styliste de la première dame qui s'appelle Gonzalo et qui est inspiré d'un personnage réel dont les Mébelles parlent dans une de ses chroniques, où il évoque ce styliste qui vivait aux côtés donc de Lucia Earhart, la femme de Pinochet. Et ce qui est intéressant dans le roman, c'est que ça vient contredire l'idée un peu hâtive qu'on pourrait se faire que La Folle, par définition, le personnage de La Folle est révolutionnaire. Le type de La Folle est par définition contestataire et révolutionnaire. Et voilà que les Mébelles, allant comme à son habitude contre les clichés, crée en contrepoint de La Folle du Front un personnage de folle snob et absolument collabo, si vous me permettez cette expression, puisqu'il est au service de cette première dame et il est obsédé par son élégance et par sa parure.
Nous allons maintenant entendre la chanson, tout à fait authentique donc, qui donne son titre au roman de Les Mébelles. C'est celle qu'écoute avec bonheur ce travesti tangomier d'Otorero. Elle est interprétée par Sarah Montiel.
Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero, y el corazón se te muere, si no te dicen te quiero, y cualquier cosa te hiere, como a mí me está pasando, que me despierto llorando con temblores de agonía, porque tus ojos mi vida y ese color de tu pelo aún dormía me dan celos, gitano, gitano, del alma mía. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño noche y día que sin ti me quedo. Tengo vida mía.
Anatole Tomczak, dans ce personnage en personne où j'étudie le personnage de la folle du front dans le roman de Pedro Lemebel, Je tremble au matador, je voudrais faire un petit excursus pour dire que c'est un roman politique, mais c'est aussi un roman poétique et je voudrais simplement citer ce que la folle du front imagine à un certain moment où elle confectionne une nappe brodée d'oiseaux et de chérubins pour la femme d'un général, et voici ce qu'elle se dit. Le vin rouge éclaboussait la nappe, le vin cireux s'écoulait en caillots où se noyaient ces petits oiseaux, où ces chérubins battaient vainement des ailes, pauvres créatures de fil, embourbées dans les reliefs de cet épais festin. Au loin soufflaient les trompettes altières d'un hymne martial, scandées par les éclats de rire des généraux, qui mordaient dans la chair juteuse de la côte de bœuf en bavant, mâchant sauvagement cette viande grasse, faisant jaillir du sang entre leurs dents, salopant leurs moustaches bien taillées. Excellente traduction, soit dit en passant, d'Alexandra Carrasco-Rahal.
Vous faites référence à un épisode absolument frappant où la folle du front doit venir livrer une nappe brodée pour une femme de général qu'elle compte utiliser le jour du 11 septembre. Le 11 septembre au Chili, c'est l'anniversaire du coup d'État de 1973 de Pinochet. Arrivant chez cette femme de général, imaginant sa superbe nappe brodée étendue sur la longue table noire, elle se met à avoir cette hallucination dont vous avez lu un extrait et finit par décider de ne pas livrer la nappe, de partir, puisqu'elle dit qu'elle refuse que sa nappe devienne le drap violacé d'un crime. Et c'est là qu'on voit notamment, véritablement, en action, le courage de cette folle du front.
Il y a des gens pour qui les folles sont excessivement dangereuses et des monstres, etc. Et je vais citer un autre passage qui montrera que, je crois, il n'y a aucun risque à laisser une folle auprès des enfants, beaucoup moins que certains prêtres en tout cas. La vingtaine de Schtroumpfs le regardait circuler autour de la table comme une maîtresse d'école, ou plutôt comme le personnage asexué d'un conte de fées qui mettait un petit chapeau à chaque enfant avec une extrême délicatesse. C'est aussi, d'une certaine façon, le roman de la faiblesse contre la force. Moi, je suis tout à fait pour la faiblesse parce que la force est pour moi une décadence. Il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, Pinochet, c'était la force, c'était l'armée. C'est la décadence, c'est une décadence morale considérable. Alors que la faiblesse, qui fait ce qu'elle peut, nous sommes tous faibles au fond, mais nous ne voulons pas le reconnaître. Et cette faiblesse est assez peu... Je citais Tennessee Williams, mais Tennessee Williams ne pensait pas à autre chose, je crois. Et ce qui fait aussi que... Il y a peu de romans comme ça en France. Il y a très peu de romans de folles, sinon pas. On pourrait citer Copy, mais d'ailleurs Copy était argentin. Et je me demande si ça ne vient pas du fait que la folle est une conséquence du machisme.
C'est le statut toujours entre les deux de la folle qui est à la fois volontaire et qui est à la fois subie. Il y a une citation, si je me souviens bien, de Didier Ribon qui dit « La honte donne son énergie à l'exhibitionnisme ». C'est-à-dire que quand on ne supporte plus les murmures et les quolibets et les moqueries et les violences, surgit une énergie qui donne cette extravagance, cette théâtralité, cette outrance de la folle, mais qui naît au départ d'un rejet et d'une moquerie.
Et d'ailleurs, pour rester sur Blanche Dubois, voici une autre phrase qui, à mon sens, montre bien cette parenté avec le personnage de Tennessee Williams. C'est quand, vers la fin, la folle doit déménager et le membre de phrase est « un morceau de chiffon et beaucoup d'imagination lui suffirait pour construire un nouveau château de briques et de broc ». C'est exactement ça. La femme de Pinochet dont vous parliez tout à l'heure, Anatole Tomczak, rappelle dans le livre, et c'est une pique assez bien sentie de l'Aimée Belle, que son mari, Pinochet, a décoré Georges-Louis Borges de l'Ordre du Mérite du Chili. Ce qu'elle ne précise pas, c'est qu'il s'est rendu à Santiago contre tous les avis de ses amis en 1976 et qu'il a même dicté une conférence de soutien à Pinochet. Et on pourrait rappeler aussi qu'avec la perversité propre aux tyrans, qui cherchent toujours à compromettre ceux qui les approchent, le jour même où Pinochet décorait Borges, il faisait assassiner à Washington un ancien ministre d'Allende. Il y a dans ce roman un refus de la plainte. Dans une interview, l'Aimée Belle dit « Je veux dire que le PD se vend mieux s'il souffre, pur masochisme théâtral capitaliste. » Et son roman est un roman qui n'est pas dans la plainte et dans l'élégie.
C'est même à la fin, ce qui est intéressant aussi dans la progression de ce roman, c'est aussi, en fait, vous parliez tout à l'heure de la force et de la faiblesse. Et en fait, c'est dans ce roman, en fait, la force qui est représentée par Pinochet se fait progressivement renverser et grignoter par la folasserie, puisqu'en fait l'homosexualité surgit de toutes parts autour de Pinochet, que ce soit en la personne du styliste de sa femme que vous évoquiez, mais aussi à la fin, un jeune militaire de l'école militaire qui est dans la propriété, dans un des palais de Pinochet, qui l'obsède et qui va venir le narguer jusque dans ses rêves. Donc en fait, dans le roman de l'Aimée Belle, l'homosexualité, même si l'attentat échoue et même si Pinochet se maintient au pouvoir, c'est une certaine folasserie qui l'emporte sur la force. Et donc, ce n'est pas du tout un roman de la défaite, absolument pas.
Ce roman a été écrit après la chute de la dictature. Comment est-ce qu'il a été accueilli au Chili, vous savez ça ?
Il s'est très bien vendu. Et il a participé à la gloire, véritablement, on peut parler de gloire, de l'Aimée Belle au Chili. Il est très connu. Et paradoxalement, d'ailleurs, en dehors des cercles homosexuels et en dehors des cercles de gauche aussi, c'est une figure très connue. Et ce roman a participé à véritablement le rendre encore plus célèbre.
Il pourrait être comparé d'une certaine façon, nous parlions de la plainte et de la combativité, à un film qui a eu un énorme succès bien des années auparavant, qui est Une journée particulière d'Ettore Scola avec Mastroianni et Sophia Loren, et qui était un très bon film, mais qui montrait les souffrances d'un homosexuel sous la dictature de Mussolini en Italie. Et évidemment, c'était réalisé par un réalisateur hétérosexuel qui ne pensait pas à mal, d'ailleurs. Il voulait montrer les souffrances. Mais je me demande s'il n'est pas plus efficace d'aller dans la bouffonnerie comme le fait l'Aimée Belle.
Il y a eu, oui, ce sont les différentes manières d'évoquer les souffrances de l'homosexualité. Effectivement, le mode folle, ou le mode plus pathos.
Mais c'est au-delà de ça, c'est pas un roman sur les souffrances de l'homosexualité, ce livre.
La folle subit des moqueries et subit oui. Un certain rejet quand même de son entourage et des gens qui...
Bien sûr, mais le propos du roman n'est pas de montrer ça. Ça, c'est un décor et où elle a fini, d'ailleurs, avec ses colibés dont vous parlez, etc., par créer son petit monde à elle où elle vit très bien. C'est un roman qui montre justement comment peut-être... pour se protéger, ce genre de personnes sont obligées de créer des placards transparents qui se montrent mais qui sont obligées de se cacher, et qu'il y a des placards transparents qu'il faut parfois aussi casser pour faire autre chose.
Le type, de toute façon, le personnage, le type même de la folle a évolué comme ça tout au long du XXe siècle, passant d'une créature monstrueuse qu'on pointait du doigt à un être de contestation, un être plus politique qui voulait briser des chaînes.
Et qui n'empêche pas, d'ailleurs, le comique, vous l'évoquiez tout à l'heure, une scène extrêmement réussie du roman. Vous citiez la scène de la fellation qui aurait pu être écrite par un Rabelais gay. Les femmes se contentent de sucer alors que les folles exécutent une broderie charmante, jouent une symphonie, et ça dure des pages et c'est extrêmement, extrêmement comique.
Oui, c'est exquis, c'est extrêmement comique et c'est aussi exquis. Et il y a là un vrai maniérisme baroque dans la manière de décrire tous les gestes de cet acte d'amour, puisque c'est ainsi qu'il est décrit et qui représente de manière sublime tout l'amour de cette folle pour son Carlos, qui ne l'aimera jamais de la même manière en retour.
Il n'est pas tout à fait sûr que l'amour ait été une grande préoccupation de l'aimer belle lui-même. En tout cas, j'ai trouvé une interview de lui où il dit à une journaliste qui lui pose la question « La recherche de l'amour est tellement ringarde, mon ami, que je préfère les gens qui m'aiment sur Facebook et en silence. » Et ça n'est pas non plus un roman angélique. Vous parliez tout à l'heure des conditions sous Allende qui n'étaient pas extraordinaires non plus. Dans une pièce ultérieure intitulée « La ultima cena de San Camillo », l'aimé belle décrit des femmes trans chassées de leur quartier pour nettoyer, si on peut dire, Santiago après la dictature. Et lui-même avait écrit « Parce que la dictature passera et la démocratie viendra, et après, que ferez-nous de vous, camarades ?»
Alors, particulièrement la fraction, on va dire, trans de la communauté queer a été, au Chili, et même après la fin de la dictature, a été la plus réprimée.
Anatole Tomczak, que vous a appris le personnage de la folle du front ?
La folle du front m'a appris que Pedro Lemebel était un grand écrivain et que le courage portait parfois des fossiles et les vêtements les plus kitsch.
Comme si j'ai assis. C'était Personnage en personne, le 175e.
Là-haut, paradis.
Réalisation, Clotilde Pivin. Documentation, Louisa de Léo. Prise de son, Dofar Guéride.
De ma vie, le paradis acquis. C'était un grand jeudi. Tous les jours, de l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers de passants, sans rêve, qui ne savent être heureux, comme si j'étais assis là-haut au paradis, de l'autre côté de la rue, mon paradis.